vous êtes sur RDL 103.5 pour le Minimag et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir un ami, Thibaut Wenger, directeur d'une compagnie qui s'appelle Premier Acte et qui est le metteur en scène d'un spectacle que vous pourrez voir samedi qui vient, le 15 novembre à 20h à la Salle Europe. Thibaut Wenger et la compagnie Premier Acte ne sont pas des inconnus pour l'École Marien, pour la Salle Europe, puisque l'année dernière, ils étaient venus présenter un spectacle qui était vraiment extraordinaire, L'ennemi du peuple d'Ibsen, dans une mise en scène qui a ravi tous les spectateurs. Alors bonjour Thibaut.
Bonjour.
Alors je sais que tu viens de loin ce matin parce que le spectacle Lex de Marius von Mayenburg a été créé à Bruxelles, au Théâtre des Martyrs, et tu viens de faire la route là ce matin, puisque tu vas monter cet après-midi les décors du spectacle à la Salle Europe.
Oui, on a joué hier soir à Bruxelles, ouais.
Oui, donc vous avez joué votre dernière, oui. Ouais. Alors peut-être, tout de suite, peux-tu nous dire de quoi ça parle, l'ex, ex d'ailleurs, il n'y a même pas de déterminant, c'est ex tout court, parce qu'on peut se poser des questions sur un titre aussi court et avoir plusieurs suggestions. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte que ce ex, si on le pitch rapidement?
Alors à la base, ça c'est une sorte de triangle amoureux bien connu. Il y a un couple, Daniel et Sibylle, qui sont dans la quarantaine, qui ont deux enfants, qui ont des carrières plutôt réussies. Elle est architecte, elle est médecin assistante. Et un soir, Francisca, l'ex-petite amie de Daniel, l'appelle parce qu'elle vient de quitter Christian, son mec, et elle demande l'hospitalité pour la nuit, quoi. Et en fait, sa présence au sein du couple va agir comme une sorte de révélateur et mettre au jour des mensonges.
La crise de la quarantaine dans un couple qui est tout à coup révélée par l'arrivée d'une sorte d'intrus. Il y a quelque chose de presque pasolinien, donc l'intrus qui va...
Comme dans Théorème.
Ouais, oui, comme dans Théorème, ouais. L'intrus qui arrive et puis qui va révéler finalement les problèmes du couple sous-jacent. Donc c'est aussi une sorte de vaudeville. Est-ce qu'on rit à l'ex de Mayenburg? Est-ce que ça fait rire?
En tout cas, j'ai l'impression que ça démarre vraiment comme une pièce de Pinter, avec cette sorte d'humour. Là, j'ai été quand même étonné, on a joué deux semaines, là, de voir à quel point ça riait, quoi. Ouais. C'est quand même plein de... Enfin, comment dire, c'est une sorte de combat de punchline, quoi. Et donc,
oui, parce que c'est vrai que le salon dans lequel se passe, je pense, l'essentiel de la pièce, ça devient une sorte de ring, mais un ring à trois. Enfin, un combat à trois.
Dans un premier temps, la pièce démarre par une longue scène à deux, une longue scène de couple, et c'est une sorte d'exercice très pinterien, quoi, sur des niveaux de réalité un petit peu mouvants, enfin, voilà, un truc qui se dérobe et une forme d'humour un peu anglais comme ça, puis elle évolue et on quitte cette forme de comédie pour aller vers autre chose, quoi. Ouais. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est on n'est plus du tout dans le vaudeville, quoi.
Enfin, oui, plus du tout dans le vaudeville et pas peut-être complètement non plus dans une forme de réalisme, même s'il y a une justesse, j'imagine, quand même de ce qui peut arriver dans un couple quand tout à coup se révèle quelqu'un qui a un autre point de vue sur au moins l'un des personnages. Peut-être qu'à ce moment-là, la femme qui arrive, elle connaît Daniel différemment, et ça amène peut-être effectivement des révélations et des découvertes.
Oui, il y a une dimension cathartique, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens se marrent, parce qu'on se reconnaît beaucoup
dans
chacun des personnages, dans leurs faiblesses, dans leurs maladies.
Dans des névroses, finalement, qui les possède. Voilà. Ouais. Alors, c'est un texte de Marius von Mayenburg, donc, qui est un auteur allemand contemporain très joué dans le monde. Enfin, c'est un des plus grands auteurs contemporains actuels en Allemagne. Il est souvent connu en France pour, par exemple, Le Moche, qui a été joué plusieurs fois, ou d'autres titres de lui. C'était en fait un collaborateur, le dramaturge de Thomas Ostermeyer. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cet auteur. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de représentation de Aix en français, à part la vôtre.
Ben, j'ai travaillé sur l'enfant froid comme travail de diplôme à l'INSAS, quoi, en 2010.
Oui, l'INSAS qui est une école de théâtre à Bruxelles.
Ouais, école nationale belge, quoi. Puis j'y suis revenu en 2020 avec une seconde pièce qu'on avait déjà fait traduire à l'époque par Joséphine Devec, qui traduit aussi Aix, qui était Peng, Pan.
Oui.
Qui était l'histoire d'un petit gamin, d'une sorte d'enfant roi, comme ça, dans une famille de bobos, qui prend le pouvoir sur ses parents, puis sur le spectacle, et impose une sorte de reality show, comme ça, d'un goût douteux, et qui se trouve être une sorte de bébé Trump, comme ça, quoi.
Mmh.
Et voilà, Aix, maintenant. Et c'est assez marrant parce que, donc, c'est un auteur que je fréquente, à 15 ans d'intervalle, quoi, qui est un peu plus âgé que moi, l'Enfant Froid était une pièce sur des étudiants, quoi, qui avaient un peu de mal à rentrer dans la vie active. Pan sur des jeunes parents qui viennent d'avoir un enfant, et là, Aix sur plutôt un couple qui est un peu
installé,
dans le creux du U de sa vie, quoi, voilà. Et donc, c'est aussi, enfin, il est plus âgé que moi, mais je chemine aussi un peu avec une trajectoire de vie comme ça. Enfin, c'est assez marrant. Et je vois aussi que l'écriture évolue beaucoup, quoi. Il y a dans L'Enfant froid, dans Peng, il y a un grand formalisme, quoi, avec des personnages un peu en deux dimensions, comme ça, qui ont souvent l'air d'être des découpages ou des collages.
Oui, c'est-à-dire que ça ressemble plus au théâtre post-dramatique tel qu'on l'imaginait, avec des principes de montage, de collage.
Ouais.
Alors que ce qu'il écrit peut-être plus récemment, c'est plus des spectacles centrés sur des personnages quand même si c'est pas forcément psychologisant, puisqu'il y a une écriture quand même très particulière de punchline, mais il y a quand même cette question de la névrose, et donc c'est vrai que ça peut correspondre aussi un peu à l'évolution du théâtre allemand. La dimension politique, elle devient peut-être moins apparente, puisque là, par exemple, c'est un vaudeville qui se passe dans une famille avec deux enfants. Il y a le personnage de Aix, ça paraît être un contexte relativement quotidien et trivial. Mais en fait, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose de politique, parce que dans vos travaux en général, quand même, cette dimension est importante, il me semble. Et quand même, il y a quelque chose de politique dans ce qui se passe entre ces gens. Est-ce que vous seriez d'accord avec mon point de vue ?
Ouais, tout à fait. Ben, de toute manière, j'ai l'impression que son écriture s'est toujours concentrée sur la classe moyenne européenne, en crise, quoi, comme une sorte de terrain sociologique de prédilection, quoi. Et qu'il a toujours quand même travaillé, il me semble, sur les maladies de ce milieu-là, quoi. Ouais. Et bon, ici, ça se double d'une sorte de lutte des classes, hein, dans ce trio-là, parce que Francisca vient d'un milieu populaire, et Sybille d'un milieu bourgeois, et Daniel
un architecte, un médecin.
Choisi Sybille aussi. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, parce que c'est ce qu'elle dit, et la vérité est quelque part un petit peu difficile à cerner, quoi. Mais c'est probablement un choix pour s'élever dans la société, quoi. Enfin, voilà, dans les représentations de la culture bourgeoise, comme elle dit, quoi. Ouais.
Oui, donc en fait, on s'aperçoit aussi que le spectacle va révéler sans doute ce que la société, ou ce que les injonctions de la société, ou quelque chose aussi qu'on intériorise, comme par exemple cette montée des classes, d'une classe sociale à une autre, c'est un peu ce que la société fait aux gens. Enfin, il y a une forme de violence, parce que très souvent, les textes de Marius von Meinbourg sont quand même extrêmement violents. Alors, est-ce que c'est le cas là aussi ? D'après les critiques que j'ai lues et qui sont fort positives, apparemment, les spectateurs aussi, même s'ils rient, prennent dans la figure une sorte de claque aussi, parce que du rire, peut-être, on passe à quelque chose de vraiment violent, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé en tant que tel, ou c'est venu dans la réception du spectacle ?
Non. Enfin, J'étais bien entendu étonné par les rires,
Oui.
mais la dimension pulsionnelle du jeu, c'est quelque chose que j'essaie de travailler tout le temps, quoi. Donc le fait que ça ait quand même gratté là où ça fait mal, ça fait partie quand même du projet, quoi.
Oui, et apparemment, effectivement, enfin, en tout cas, les critiques qui ont assisté au spectacle ont eu le sentiment que ça faisait bien mal là où vous mettiez le doigt, enfin, où la pièce met le doigt, en fait, vraiment. Ouais.
Francisca, c'est aussi un fantôme du passé, quoi. Et c'est assez marrant aussi, parce que j'ai l'impression que le texte est une sorte de longue paraphrase philosophique de Kierkegaard et
Ah.
des différents stades de la pensée kierkegaardienne, quoi. Enfin, et donc, c'est assez drôle. Enfin, c'était aussi le cas dans Pan, mais c'est une écriture qui est très référentielle, quoi. Enfin,
L'air de rien.
qui digère beaucoup de matériaux et qui les. Enfin, ouais. Et il y a vraiment. Enfin, notamment vers la fin, de longs développements. Je pense que ce qui est au travail, c'est pas tant un théâtre des relations et du conflit que une sorte de combat rhétorique et presque un combat philosophique sur la question de comment vivre dans le présent. Enfin, je pense que ça parle de ça, quoi. Et Francisca, c'est presque une personnification du passé, enfin, d'un passé avec lequel comment dire, on arrive peut-être pas à vivre ou pas à vivre dans le présent parce qu'on n'a pas fait certains choix. Enfin, il y
Oui,
a
ou
quelque
parce qu'il n'y a
chose.
pas un deuil de certaines choses aussi du passé, peut-être. Ça correspond assez à des thématiques aussi liées à l'Allemagne, en fait. Parce que, bon, Marius von Mayenburg est allemand. Est-ce que ça peut avoir un rapport aussi avec un passé qui ne passe pas dans la société allemande ou un passé qui fait retour de façon un petit peu inquiétante?
Pas directement, non. Ce serait plutôt comment dire, une incapacité à habiter le présent parce que on se réfugie sans cesse dans des souvenirs et on est un petit peu, comment dire, incapable aussi de se projeter dans le futur parce que ce refuge dans les, enfin, on sait que ces souvenirs sont erronés. Donc il y a une sorte de et
Ah oui, parce qu'il y a un récit en plus du passé qui est pas forcément, qui correspond pas forcément à la vérité, comme vous le disiez tout à l'heure, la
Bah, en tout
vérité est
cas,
difficile à dire, difficile à
c'est un
cerner.
passé refuge, quoi.
Oui.
Et je crois que comment dire, la ligne de fond, enfin, le travail de Sibylle, ça va être d'essayer de mettre Daniel en face du présent, quoi. Et d'essayer de le faire vivre avec le présent, avec le temps qui passe, avec le corps qui vieillit, avec,
Oui,
et je
avec l'usure aussi,
crois.
sans doute, d'un couple à 40, enfin, qui a déjà 40 ans et 2 enfants, peut-être ça aussi. D'assumer d'une certaine façon la durée aussi dans l'amour, c'est pas forcément facile.
Enfin, en tout cas, de construire du désir,
Oui.
de construire l'amour avec le temps qui passe,
Passe.
quoi.
D'accord, mais alors avant de continuer à parler du spectacle et des acteurs qui l'interprètent, on va peut-être écouter une chanson de Camille assez amusante qui s'intitule Les Ex.
Avec tes excès de vitesse, si j'expurgeais ton agenda, il ne resterait plus que moi. Mais toi, tu revois sans complexe ces ex que j'exècre et tu me dis tout excité. Y a plus aucune ambiguïté. Mais je sais,
je sais, je sais,
je sais. C'est sexy. Les ex, c'est comme un expresso, ça se boit vite, ça se boit chaud. C'est pas comme l'amour, impossible. Les ex, c'est toujours accessible. Seul ustensile, un bout de latex, un coup de fil et un duplex. Y'a plus besoin de mode d'emploi. On a déjà fait ça X fois. Sexy. de vitesse, ça te vexe. Si je t'expulse, si notre pax devient pex, si je t'exile, te catapulte vers d'autres galaxies où les ex, c'est permis. En plus, je sais que ça t'excite d'avoir une extra ex sur ta liste. Oui, je sais.
Je sais, je sais,
je sais. C'est sexy. Je sais,
je sais, je sais,
je sais,
je sais, je sais,
que c'est sexy.
Vous êtes sur RDL 103.5 et je vous parle ce midi d'un spectacle qui aura lieu le samedi 15 novembre à 20h à la Salle Europe. Il s'agit de Ex de Marius von Mayenburg par la compagnie Premier Acte et je discute en ce moment pour vous avec Thibaut Wenger, le metteur en scène du spectacle. Alors Thibaut, donc Ex, tu peux peut-être le repréciser, c'est un texte qui a été retraduit pour la compagnie Premier Acte. Alors est-ce que tu peux parler un petit peu de cette traduction?
Il a même été traduit, enfin il n'avait pas été traduit.
Traduit en français, la première traduction
c'est
en français.
C'est la création française, ouais.
Ouais, ouais.
Je travaille avec Joséphine Devec, qui est une autrice suisse, fribourgeoise, quoi, qui travaille aussi comme comédienne dans la compagnie. Et elle avait déjà traduit Pan, et elle a traduit Ex. Et le texte va être publié à l'Arche d'ici quelques semaines.
Oui.
Dans la trilogie du confinement, qui est une série de trois pièces que Mayenburg a écrit pendant le Covid, quoi. Ouais.
Oui, d'accord. Donc c'est en plus vraiment intéressant, puisque là on assiste à une création nationale d'un texte qui n'a jamais été monté en français et qui peut faire penser, puisque c'est quand même un huis clos, qui peut faire penser peut-être un petit peu à Sartre. Vous avez déjà parlé de la dimension philosophique, peut-être, de référence à Kierkegaard. Alors, est-ce qu'il y a des références? Vous avez parlé d'Harold Pinter aussi, donc il y a cette dimension de l'absurde aussi, un petit peu. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus?
Il se trouve que j'ai monté Combat de Négrétien de Coltès, qui est un huis clos, enfin, d'une certaine manière, même s'il est un peu en plein air, mais enfin, oui. On retrouve un peu ces personnages comme ça, perdus dans un non-lieu, qui jouent probablement avec le texte de Sartre aussi, enfin, et je retrouve dans Ex, ce truc complètement hanté par la culpabilité qui était déjà présent dans Combat, cette sorte de société qui se referme sur elle-même et qui est complètement bouffée par la culpabilité par rapport à celles et ceux qu'on a fait disparaître pour essayer de vivre comme ça, quoi. Alors dans Combat, c'est un corps mythologique, là c'est plutôt une sorte de dégâts, comment dire, de personnes qui sont des dégâts collatéraux de nos vies.
Oui, c'est un peu le thème du ghosting aussi aujourd'hui, c'est-à-dire c'est dans certains couples, tout à coup, l'un disparaît en ne répondant plus à aucun mail, à aucun, et devient une sorte de fantôme. Enfin, il y a peut-être aussi quelque chose de ça. Comment on fait disparaître quelqu'un dont on a été très proche, tout à coup, qui est sorti de la vie, en fait?
Ouais.
Ça peut parler de ça aussi, qui est un thème d'actualité d'une certaine manière aussi. Ouais. Alors, quels sont vos interprètes? C'est des collaborateurs ou y a-t-il des nouveaux acteurs par rapport à la compagnie?
Alors, Francisca, c'est Émilie Maréchal, qui est une comédienne avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années. Daniel, c'est Nicolas Lusson, qui est un garçon du coin. Il a grandi à Bussan, il a commencé à jouer au Théâtre du Peuple et il a fait l'INSAS quelques années avant moi. Enfin voilà, on s'est rencontrés en Belgique. Et France Bastoun, c'est une actrice qui est liée au Théâtre des Martyrs, qui est le théâtre coproducteur à Bruxelles, et c'était la première fois que je travaillais avec elle.
Oui, alors c'est intéressant aussi parce qu'on voit que vous travaillez sur plusieurs territoires, sur plusieurs pays. Enfin, votre production est toujours internationale entre la Belgique, la France, et là vous avez des collaborateurs qui sont suisses. C'est quelque chose qui vous intéresse d'être comme ça à la croisée de pays qui sont proches quand même, qui sont frontaliers. C'est quelque chose que vous travaillez parce que votre intérêt aussi pour la littérature allemande ou nordique, même si vous avez parlé aussi de Coltès à l'instant. Enfin, est-ce que c'est une des ambitions de la compagnie d'être comme ça un petit peu à l'international?
C'est pas vraiment, comment dire, un choix délibéré. C'est lié à notre parcours et aux rencontres qui se sont faites en chemin. Mais là, on est en train de travailler sur notre prochain projet qui sera créé en Alsace, d'ailleurs, en début de saison prochaine. Et il est aussi coproduit sur trois pays, avec la Suisse, la Belgique, la France, parce que j'ai des possibilités de partenariat de coproduction en Belgique, en Suisse.
C'est vraiment intéressant, mais c'est vrai, voilà, c'est tout à fait lié à votre parcours à l'Alsace.
Qui me permet de sécuriser aussi un peu la production, parce que la situation est pas évidente en ce moment.
Oui, bien sûr. La situation, on peut le dire, on ne le dit pas souvent quand nous faisons des émissions sur le théâtre, mais parce que nous sommes toujours très positifs. Mais c'est vrai que la situation des compagnies est particulièrement difficile en ce moment pour trouver des financements, et même quand on fait un travail d'extrême qualité. Alors peut-être pour reparler d'Aix, il est question aussi peut-être de la scénographie. Alors j'ai un peu regardé les images que j'ai pu voir. Donc en fait c'est une sorte de salon, mais on a l'impression que c'est un peu un univers à la Fassbinder dans les couleurs et dans... Oui, alors j'ai pas trop su situer l'époque. Alors comment vous avez travaillé la scénographie, les canapés, les couleurs? J'ai vu aussi que dans les costumes, il y avait par exemple une veste verte, très vert. Et je sais pas, ça m'a évoqué peut-être plutôt les années 80. Enfin, est-ce que c'est moi qui n'ai pas encore vu le spectacle et qui me fonde juste sur des photos? Enfin, comment vous avez élaboré la scénographie?
D'abord sur la scénographie, Boris s'intéressait au théâtre d'anatomie. Enfin, c'est venu de là, à la base, où les étudiants, enfin, se réunissent dans un petit amphithéâtre pour une dissection, quoi. Et donc, c'est un dispositif qui est généralement,
un petit amphithéâtre avec quelque chose au milieu, là.
Ouais,
avec...
voilà. Ouais. Donc, bon, là, l'amphithéâtre s'est transformé en U, quoi. Enfin, on est plutôt dans un dispositif en U qui fait aussi un petit peu penser à un ring, où, comme tu le disais tout à l'heure, on s'affronte avec des mots, quoi, mais on monte un peu sur le ring, il est légèrement surélevé. Et j'avais envie que ce truc-là tourne.
Donc il y a une tournette.
Il y a une tournette qui crée une instabilité et aussi des angles de vue souvent changeant sur les choses, quoi, parce que je pense que c'est un texte qui joue avec ça. C'est très difficile, je pense, de se situer. Enfin, bien entendu que Daniel est un personnage toxique, problématique et tout, mais je pense qu'on peut avoir des moments d'empathie avec lui, comme on a des moments d'empathie avec les autres personnages. Enfin voilà, j'avais envie de pouvoir changer les axes, changer le regard. Et c'est aussi je sais pas exactement pourquoi, mais j'avais l'impression que les rapports se figeaient. dans des corps qui n'étaient pas des corps quotidiens, donc des corps qui bougeaient peu. Enfin, parce que j'avais l'impression que pour que la parole s'articule, il fallait que les corps soient relativement immobiles. Et puis la tournette ramène une sorte de mouvement de fond dans ces corps.
Qui se fiche petit à petit.
Fiche, ouais,
voilà. Et donc vous avez parlé aussi d'un laboratoire ou d'un lieu de dissection, d'anatomie. C'est aussi ce côté entomologiste peut-être de disséquer comme ça ce qui se passe dans la tête de ces trois personnages et dans leur vie, dans leur comportement aussi.
Oui, ça vient de là. Il y a une sorte de cheminée lumineuse comme ça qui est un petit peu comme une sorte de microscope ou de truc par lequel on observerait ou une sorte d'issue de secours un peu inatteignable. Parce que Boris se demandait aussi, mais pourquoi ils ne partent pas ?
Ah oui,
parce que l'issue est hors de leur portée et il y a ce truc qui est apparu.
Oui, parce qu'il y a la peur. Parce que en travaillant un tout petit peu pour l'émission sur Marius von Mayenburg, il dit très souvent que s'il est écrit, souvent il part de situations et de thématiques qui lui font peur et que la peur est un des éléments de son écriture. Est-ce que c'est quelque chose aussi à quoi vous avez pensé là vous parlez du fait qu'il ne s'échappe pas, qu'il ne cherche pas d'issue à l'extérieur et qu'il continue à creuser.
Moi ce qui m'a amusé c'est que je crois qu'ils ont, enfin Sibylle et Daniel ont très peur de Franziska parce qu'ils ont peur des contes qu'elle pourrait venir leur demander quoi. Et c'est un petit peu comme Albury qui dans Combat est une sorte de fantôme qui les rend
qui
dingue.
Hante les autres personnages dans Combat de Nègre et de Chien, oui.
Et Franziska de la même manière les amène loin dans la paranoïa parce qu'ils
elle les remet, oui, ça les remet en question vraiment et qu'elle est porteuse de quelque chose qui peut faire exploser ce qu'ils ont construit, c'est ça qu'on imagine.
Enfin, ils vont même au-delà d'elle, quoi. Enfin, dans une sorte de mouvement interne assez malade, quoi. Ouais.
Ouais, d'accord. Alors, au Théâtre des Martyrs, il y avait un avertissement qu'il pouvait y avoir des effets stroboscopiques. Alors, est-ce que, effectivement, aussi cet effet de stroboscopique sera utilisé à un moment, justement, particulier?
Oui, mais il n'est pas très fort. Il n'est pas très fort. C'est juste pour les épileptiques.
Voilà.
C'est un avertissement.
D'accord. C'est juste un avertissement. De rigueur parfois, oui, parce qu'on le fait moins en France, mais dans d'autres pays, oui, c'est très très courant. Est-ce qu'il y a aussi une dimension musicale dans ce spectacle?
Je travaille avec Thomas Caillou et Geoffrey Sarjus, qui sont deux musiciens avec lesquels on a fait plusieurs spectacles, qui ont composé des nappes qui, problématisent.
Viennent accroître la tension.
Amènent une étrangeté aussi, déréalisent des rapports, des choses comme ça,
Oui, alors tout cela me paraît bien intéressant et je vous convie vraiment à venir voir donc Ex de Marius von Mayenburg par la compagnie Premier Acte, mise en scène de Thibaut Wenger. Donc je le répète encore une fois, c'est le samedi 15 novembre à 20h. Je suis absolument persuadée que vous ne serez pas déçus parce que Thibaut Wenger, dans tous les spectacles que j'ai pu voir, et j'en ai vu un récemment aussi au Vignoble Clour, l'adaptation de Michael Collas, où il interprète aussi un personnage, où il joue lui-même. Chacun des spectacles que j'ai vus, j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement intéressant, extrêmement théâtral et jouissif, parce que les acteurs, il y a vraiment du jeu, vraiment. Et là, dans cette histoire entre ces trois personnages, je pense qu'il y a de quoi faire en sorte que l'on s'identifie à eux et en même temps, peut-être que ça nous rassure un petit peu quand nous ne sommes pas peut-être aussi déjantés que nous ne le sont les personnages. Ou au contraire, peut-être que vous allez être confirmés dans le fait que votre couple est extrêmement en danger. En fait, j'en sais rien puisque je n'ai pas encore vu le spectacle. Qu'en penses-tu, Thibaut ?
Ah bah, ça dépend des jours.
Ça dépend des jours. Il y a des jours où on se reconnaît pleinement. Ouais, il y a des jours où on est content de ne pas être ni Daniel ni Sibylle.
Ouais.
Bon. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon appétit et j'espère bien vous retrouver à la Salle Europe le 15 novembre à 20h.
Merci.